Nous avons entendu la colère des Français. Cette taxe a cristallisé la colère des Français. Et j'ai eu l'occasion de le dire, aucune taxe ne mérite de mettre en cause l'unité nationale. Et donc, elle est abandonnée.
Édouard Philippe, le Premier ministre, hier soir sur TF1, confirme donc que la fameuse hausse des taxes sur le carburant qui a mis le feu aux poudres depuis plus d'un mois est abandonnée. Le chef du gouvernement parle d'un geste d'apaisement. Il appelle au dialogue. Pas sûr qu'il soit entendu. Pour l'instant, les appels des Gilets jaunes à manifester demain sont maintenus dans toute la France. Un nouveau samedi de la colère se profile donc. Alors, comment canaliser cette colère et éviter qu'elle ne donne lieu aux débordements et aux violences observées la semaine dernière? Comment rétablir le dialogue, la confiance? À quoi aspirent désormais les Gilets jaunes, dont les revendications dépassent largement cette seule taxe sur l'essence? Assiste-t-on sur le plan politique à un tournant du quinquennat? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse et de réflexion. Aujourd'hui, Gilets jaunes avant l'acte 4 RFI en édition spéciale jusqu'à 8h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale sur RFI.
À mes côtés pour animer cette édition, Anthony Lattier du service politique de RFI, également en studio Jean-Philippe Moinet, politologue et directeur de la revue Civique. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en ligne aussi depuis la région de Toulouse avec Benjamin Cauchy, cofondateur des Gilets jaunes libres. Aussi au téléphone, Sébastien Rocher, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de La police en démocratie. Et Bertrand Sort, député La République en marche de la Manche, ancien maire et membre du conseil municipal de Saint-Père-sur-Mer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, je voudrais qu'on commence par écouter un gilet jaune rencontré par notre envoyé spécial à Monistrol-sur-Loire, pardon, c'est près de Saint-Étienne, et il a prévu samedi de se rendre dans la capitale.
Ce sera surtout dans l'objectif d'y aller pacifiquement, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, j'ai des collègues qui ont été pacifiquement, c'est très compliqué parce que le problème c'est que il y a énormément de CRS du coup qui essaient de repousser au maximum, donc c'est un petit peu des scènes de guerre, hein. On le voit bien sur les vidéos qu'on peut voir sur Paris, ce qui se passe sur les Champs-Élysées et autres. Sauf qu'il peut, des fois, c'est un petit peu compliqué apparemment, on verra ce que ça donne, mais bon.
Des scènes de guerre, comme on le voit à la télévision, nous dit ce gilet jaune. Benjamin Cauchy, vous êtes vous aussi gilet jaune. Vous êtes membre et cofondateur des Gilets jaunes libres. Que pensez-vous de ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous allez manifester, vous, demain samedi, et où?
Alors oui, je manifesterai, mais certainement pas à Paris. Je n'ai pas envie de tomber dans ce piège que le gouvernement nous tend à vouloir décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes en les associant à des casseurs professionnels, sachant que les Black Blocs européens ont décidé de faire leur grande réunion à Paris. Il n'y a aucun intérêt à donner du grain à moudre à M. Castaner, donc je manifesterai en région.
Jean-Philippe Moinet, cette violence qu'on a pu entreapercevoir, ou même voir tout court, la semaine dernière, elle s'exprime pourquoi et est-ce que c'est un risque demain ?
Oui, bien sûr, c'est un risque, on le voit bien, qui a été effectif, j'allais dire opérationnel, puisqu'on voit qu'il y a des emportements, des débordements qui concernent les Gilets jaunes eux-mêmes. On voit bien qu'il y a une majorité sans doute de protestataires démocrates chez les Gilets jaunes, mais il y a une minorité active, complaisante même au sein des Gilets jaunes, que je qualifie pas de démocrates, mais de radicaux, voire d'extrémistes, qui puisent leur comportement dans des mouvements, peut-être en tant que sympathisants ou électeurs de certains mouvements qui étaient très présents au premier tour de la présidentielle il y a un peu plus d'un an. Je pense évidemment au parti de Marine Le Pen, au parti de M. Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire que la majorité des Gilets jaunes sont dans cette mouvance, mais une partie d'entre eux sont là, bien actifs, et on voit bien qu'il y a des porosités avec des personnes qui sont dans un acte de violence qui les ont entraînés peut-être plus loin que ce qu'ils auraient peut-être imaginé il y a encore un mois. Donc il y a vraiment un risque, et je pense un clivage qu'il faut évoquer, puisque les Gilets jaunes sont majoritairement pacifistes. On peut imaginer que demain, ils manifestent aussi leur volonté de rester dans une démocratie apaisée, peut-être en ajoutant à leur gilet jaune un drapeau blanc. Et ces gilets jaunes pourraient ainsi se distinguer tout de suite de ceux qui débordent les rangs de la démocratie.
Benjamin Cauchy, vous la retrouvez, cette dichotomie, au sein du mouvement auquel vous appartenez ?
Oui, absolument. Nous avons constaté depuis plusieurs semaines un entrisme de radicaux, d'extrême gauche comme d'ultra-droite, qui vient entacher la qualité et la justesse de nos revendications. Donc c'est effectivement malheureux. Mais encore une fois, il ne faut pas que les radicaux soient l'arbre qui cache la forêt de ces nombreux pacifistes et de ces Français qui n'ont juste envie d'en découdre, mais en découdre dans le dialogue social.
Alors le gouvernement a prévu de mobiliser 89 000 policiers dans toute la France, dont 8 000 rien qu'à Paris. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à la semaine dernière d'une part et par rapport à ce qui se passe d'habitude, Sébastien Rocher? Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre sur le sujet de la police en démocratie.
Ben pour l'instant, c'est une mobilisation qui n'a pas faibli. Il y a la question à la fois du nombre et puis à la fois de l'intensité des affrontements. Et je reviens un petit peu en marche arrière là-dessus. La question de la violence fait partie de la protestation politique et c'est un outil de la négociation. Il n'est pas certain que le gouvernement aurait reculé si vite sans les confrontations qui ont eu lieu. Je ne cherche pas à dire qui est à l'origine des confrontations. Entre les mauvaises stratégies de police ou les personnes qui étaient déterminées à y aller et puis la dynamique d'ensemble. Mais il faut voir que c'est un élément dans toutes les fractures, toutes les crises qui sont liées à des fractures, que ce soit les protestations chez les marins-pêcheurs en 94, chez les paysans depuis les années 60 ou en mai 68, gagner, disons, l'affrontement physique est un atout pour les protestataires.
Bertrand Sorre, vous êtes député de La République En Marche de la Manche. Est-ce que le gouvernement aurait reculé s'il n'y avait pas eu ces affrontements, ces violences physiques?
Oui, bonjour. Évidemment, les violences qu'on a pu constater les jours passés, notamment le week-end dernier à Paris, évidemment, c'est un argument supplémentaire et une crainte supplémentaire du gouvernement de voir ce mouvement se propager à toute la France. Donc effectivement, le gouvernement a certainement activé un certain nombre de mesures. Pour reprendre un peu les propos de M. Cauchy tout à l'heure et sur la nécessité ou pas d'aller à Paris manifester, je crois qu'effectivement aujourd'hui, au-delà de l'expression du mécontentement et légitime à mes yeux hein, des Gilets jaunes, pour la grande majorité pacifiste, ce qu'il faut aujourd'hui c'est assurer la sécurité. On voit bien qu'il y a une peur généralisée chez les Français aujourd'hui de voir les personnes agressées et je crois que le gouvernement effectivement a apporté un certain nombre de réponses mais doit continuer à apporter d'autres réponses. On doit sortir de ce conflit et apporter un certain nombre de réponses qui concernent le pouvoir d'achat et la révision de la fiscalité.
Merci Bertrand Sorre. Je me tourne vers vous. Vous aviez une.
Oui, c'est vrai que a été dit Bonnet. Que la violence était un outil de la négociation. Je dis attention danger parce que la démocratie et la République ne peuvent pas considérer que la violence, surtout quand elle est déchaînée comme celle du 1er décembre, qui est quand même inédite dans son déchaînement, pas dans son principe. De la violence, ça existait dans différentes manifestations, mais là, le déchaînement a atteint une telle échelle qui ne peut pas être une arme de discussion en démocratie, dans une démocratie comme celle de la France, qui est une vieille démocratie et qui devrait être dans la maturité. Donc, parce que ça déchaîne d'autres armes violentes. C'est un enchaînement qui procède sans doute d'une logique révolutionnaire après, mais qui peut déborder tout le monde, y compris ceux qui sont les plus j'allais dire attachés à la cohésion sociale du pays. Donc cet enjeu aussi de la manifestation de samedi est de dire que la violence ne peut pas être un outil de négociation dans une démocratie mûre en Europe.
Mais est-ce à dire, Jean-Philippe Moinet, que le gouvernement n'aurait pas dû céder après les violences?
Alors, le gouvernement, après, c'est une autre chose, j'allais dire. Là, c'était une discussion de principe sur les fondamentaux d'une démocratie et de la République française. Le gouvernement a-t-il eu tort ou raison de céder? Je pense qu'à un moment donné, il faut être à l'écoute des protestations. Et on peut pas considérer à la fois que l'exécutif est fermé à la discussion, qu'il serait au-dessus, déconnecté et fermé, voire arrogant. Et quand il l'écoute et répond positivement à des demandes, considérer qu'il a tort parce qu'il a du lest et qu'il est en complaisance avec les protestataires, y compris les plus violents. Donc cet entre-deux est difficile à tenir et il faut que la fermeté aussi de l'ordre républicain soit affirmée, parce qu'il n'y a pas de liberté et pas d'égalité sans sécurité. N'oublions pas que la sûreté est le principe fondateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est le fondement de notre République française. Mais pour autant, l'ouverture aussi doit se faire en termes de dialogue. Et c'est aussi aux Gilets jaunes démocrates d'affirmer leur volonté de dialogue.
Alors, comment se profile la manifestation de demain? Écoutez la réponse que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a faite hier à nos confrères de BFM TV.
Et là, je viens de voir des hommes qui étaient à l'Arc de Triomphe, des hommes qui ont été attaqués. Des hommes qui m'ont dit que ils ont vu des assaillants voulant les tuer. Ils ont vu des assaillants voler un fusil d'assaut et partir avec. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un fusil d'assaut qui est aux mains de ces casseurs et qui a été volé la semaine dernière. Donc elle se profile avec inquiétude, mais sérénité, parce que j'ai vu ces hommes. Certains, l'un d'eux était un ancien militaire qui a fait la guerre, qui était au Mali. Et il m'a dit que ce qu'il avait vécu était pire que ce qui s'est passé au Mali. Voilà la réalité de celles et ceux qui sont venus à Paris la semaine dernière pour tout casser et qui menacent de revenir à Paris, mais aussi partout en province. Donc moi, vraiment, j'en appelle à la responsabilité. Que les responsables politiques de ce pays comprennent qu'on ne peut pas laisser ces factieux continuer à menacer la République.
La République en danger, une situation sécuritaire pire qu'au Mali. Christophe Castaner pratique le en même temps élyséen, mais on sent quand même plus l'inquiétude que la sérénité dans sa réponse, Sébastien Rocher.
Oui, c'est assez curieux de voir l'apaisement recherché par le Premier ministre, et puis un vocabulaire beaucoup plus agressif dans les mots du ministre de l'Intérieur. En fait, il y a une sorte de dramatisation qui est opérée. C'est vrai que c'est embêtant que les policiers se soient fait voler une arme longue. Bon, ça n'aurait pas dû arriver, ça aurait dû être prévu. C'est curieux que ça même puisse produire. Et ensuite, de traiter les manifestants de factieux, c'est pas de nature, encore une fois non plus, à rassurer la population. Donc c'est assez curieux. Moi, j'imaginerais plutôt que le ministre de l'Intérieur soit dans une logique où ils reconnaissent la validité lui aussi des griefs, l'importance de l'écoute, donc où il y a un discours tourné vers la nation et pas effectivement vers les groupes qui ont été les plus violents. On n'est pas du tout dans un cadre d'une scène de guerre. Une guerre à zéro mort, parce que la police a tué personne et aucun policier a été tué. Les morts qui a eu lieu sont des morts, disons, accidentelles, même si ça enlève rien au caractère dramatique. Donc on n'est absolument pas dans le cadre d'une confrontation armée. Donc tout ça est quand même assez peu orchestré côté gouvernement.
Anthony Latier.
Oui, le but évidemment de cette dramatisation, c'est de dissuader les gilets jaunes de monter à Paris. Les gilets jaunes, disons-nous, raisonnables. Pour certains, cette stratégie est justifiée, l'heure est grave, il y a de réelles inquiétudes. Pour d'autres, c'est le pouvoir qui engage là une stratégie qui pourrait mettre au contraire de l'huile sur le feu, radicaliser les gilets jaunes. Finalement, ce qui se joue, c'est de toute façon une bataille d'opinion qui s'est engagée, puisque les gilets jaunes sont peu nombreux mais très soutenus, et l'exécutif joue donc la carte sécuritaire pour désolidariser l'opinion des manifestants.
Alors Benjamin Cauchy et Bertrand Sang, je voudrais vous poser la même question à l'un puis à l'autre. Est-ce que cette mobilisation des forces de l'ordre exceptionnelle, nous disait le Premier ministre, vous rassure ou vous inquiète, Benjamin Cauchy?
Écoutez, elle me rassure à la fois pour assurer la sécurité des milliers de gilets jaunes qui ont une démarche pacifiste, et en même temps elle m'inquiète. Elle m'inquiète puisque nous sommes en train de rentrer dans une mise en scène politique. Et pour rebondir à ce que disait l'un de nos interlocuteurs ce matin, je pense que le rapport de force est utile dans la négociation, mais pour le coup, il ne faut pas se tromper, ce qui a fait fléchir le gouvernement pour l'instant, ce n'est sans doute pas les centaines de blessés, puisqu'ils ont déjà eu lieu malheureusement dès le premier week-end du 17 novembre. Ce qui commence à faire fléchir le gouvernement, ce ne sont pas les violences. Ça, c'est ce qui les fait fléchir principalement, c'est l'économie qui commence à être mise à plat et qui commence à être mise à mal. Je vous donne l'exemple d'un hypermarché dans la région toulousaine, un des plus gros hypermarchés, moins 50% de chiffre d'affaires entre le 15 novembre et hier. Voilà la réalité. Donc c'est ça qui est en train de faire fléchir le gouvernement. Donc ne tombons pas dans cette mise en scène et dans cette volonté du gouvernement de faire pourrir le mouvement. Donc ne vous enfermez pas dans cette logique sécuritaire et parlons enfin des revendications, s'il vous plaît.
On va y venir, bien entendu. Bertrand Sang, j'aurais quand même vous faire réagir une dernière fois sur ce sujet.
Oui, moi j'ai une vision différente de celle de M. Cauchy. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il est entendu. Il n'y a pas un Français qui ne soit pas au courant de cette élévation, si on veut, de la parole, en disant stop, on a besoin d'avoir un nouveau pouvoir d'achat, on a besoin d'avoir une baisse des taxes. Moi je pense que ce volet sécuritaire, il est nécessaire. Il faut rassurer les Français. Et en tout bon sens, je me demande pourquoi on a envie d'aller manifester à Paris aujourd'hui. On sait qu'on prend un risque. Si on est un gilet jaune pacifiste, encore une fois, les revendications, elles ont été entendues. Le gouvernement, on l'a vu cette semaine, a largement pris en compte ces demandes et souhaite, par le débat, par la discussion, accentuer les réponses qui sont aujourd'hui nécessaires à cet appel au secours de la part d'une grande partie des Français. Donc, encore une fois, le bon sens m'appellerait, si j'étais gilet jaune, à ne pas me rendre à Paris, parce que je sais que je mets ma vie en danger, je sais que je vais me retrouver en face d'extrémistes qui sont là pour en découdre, qui finalement ne sont pas forcément si concernés que cela par le mouvement des gilets jaunes, mais qui sont là effectivement pour se battre entre eux, pour piller, pour saccager, pour mettre à mal les symboles de la République française. Donc, moi, je ne peux qu'appeler à ne pas aller à Paris. Le volet sécuritaire, il est pour moi important parce que on se doit aussi, lorsque tu en es à la tête du gouvernement, à la tête de l'État, rassurer les Français et mettre en place toute la sécurité nécessaire pour qu'il n'y ait pas de dégradation sur les biens et les personnes.
7h25 ici à Paris, comme à Mantes-la-Jolie.
Édition spéciale sur RFI.
Mantes-la-Jolie, où on part tout de suite.
Voilà une classe qui se tient sage.
Ils jamais vu ça.
Regarde 146 personnes interpellées à Mantes-la-Jolie, pour la plupart des lycéens, après l'incendie de voiture. Ce que l'on n'entend pas mais qu'on voit très bien dans la vidéo, cette classe qui se tient sage, comme dit le policier qui a filmé et diffusé ces images, ce sont ces dizaines de lycéens agenouillés dans la boue, les mains dans le dos ou sur la tête, entourés de CRS. Une scène qu'a pu aussi filmer de plus loin l'agence France Presse. On a évoqué les violences à l'encontre des CRS tout à l'heure, mais à l'inverse, on a aussi vu beaucoup d'images, entendu beaucoup de témoignages qui font état d'une réponse des forces de l'ordre pas toujours proportionnée, pour ne pas parler carrément de violences policières, dans un Burger King parisien samedi dernier par exemple. Est-ce que ça ne met pas aussi de l'huile sur le feu, Jean-Philippe Moinet?
Oui, on voit effectivement ce phénomène de contagion des comportements radicalisés. Qui est le problème aussi, c'est que à partir du moment où un certain nombre de citoyens considèrent que la violence peut être une arme de négociation, c'est normal que des adolescents pensent la même chose. Donc l'exemplarité est importante aussi en politique au sens large, pas seulement pour les élus qui font leur travail d'opposition ou de majorité. Mais l'exemplarité dans la responsabilité des actes, et il est, encore une fois, j'insiste sur ce sujet parce que je pense que ça peut être un débat qui va s'ouvrir à un moment donné. Est-ce qu'une minorité, parce qu'elle est active, parce qu'elle gueule plus fort, parce qu'elle est violente, est plus entendue qu'une autre?
Je parlais de la réponse des policiers, en l'occurrence.
Oui, mais c'est un ensemble de choses par rapport aux écoliers, aux lycéens aussi. Et cette contagion des violences est un problème qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui dans l'analyse de ce qui peut se produire dans un pays comme la France. Et donc se pose la question, au moment des manifestations Gilets jaunes, il y a une quinzaine de jours, il y avait beaucoup plus de monde dans la rue pour manifester à juste titre sur le thème des violences faites aux femmes. Ça a été totalement médiatiquement, politiquement, socialement étouffé comme manifestation. Elles étaient plus nombreux que les gilets jaunes à Paris. Bon, et donc ça veut dire que est-ce que une minorité, parce qu'elle est violente, a raison sur une majorité silencieuse?
Bertrand Sort, sur ces images de policiers qui interviennent de manière très virile, disons.
Alors après, il faut toujours replacer les images dans des contextes. Voilà, même si on ne pourra jamais accepter le fait que quelqu'un se fasse tabasser par la police, c'est effectivement pas ce que l'on demande aux forces de l'ordre. Il faut simplement se rendre compte quelle pression subissent aujourd'hui ces policiers, ces gendarmes, qui sont confrontés à des individus en face d'eux, qui sont là pour les tabasser et qui n'hésiteraient pas effectivement à les rouer de coups, voire à mettre en péril leur vie. Concernant les images qu'on a pu voir à Mantes-la-Jolie, effectivement, lorsque l'on voit des jeunes, des adolescents, je pense que beaucoup ne sont pas majeurs, à genoux, les mains sur la tête, cette image prise brute là aussi est choquante. Après, les moyens policiers qui étaient en face et les policiers ont été agressés, les images le prouvent aussi. La réaction policière, effectivement, a été compliquée à mettre en place. Il faut être dans l'urgence et puis il faut surtout stopper cette élévation de la violence. Quand on est lycéen, effectivement, vous savez, le prof de l'adolescence, c'est de souvent réagir avant de réfléchir. Aujourd'hui, les lycéens ont des revendications très diverses et même pour certains n'ont pas de revendications. Ils sont pris dans un mouvement, voilà, entre copains, on s'est dit, ben, on va faire un petit peu comme on voit à la télé, puis on va aller manifester et ça peut s'embraser très vite. Alors effectivement, on ne peut pas cautionner des images où on voit des lycéens à genoux, les mains sur la tête, parce que ça rappelle bien d'autres souvenirs malheureux de notre histoire. Mais pour autant, aujourd'hui, les actes posés par ces lycéens ne sont pas non plus cautionnables. Donc, ça montre bien que le climat actuel de violence montante, on a besoin de l'arrêter, on a besoin de reprendre la négociation, la discussion, parce que à la fois chez les forces de l'ordre, à la fois chez les Français, on sent bien un sentiment d'injustice et on sent bien qu'on a besoin au niveau du gouvernement d'apporter des réponses justes.
Des réponses à ces questions, 7h30 ici à Paris. Je me tourne virtuellement vers vous, Bertrand Sor, député de La République En Marche, mais aussi ancien professeur, me glisse-t-on dans l'oreillette. Quel avis avez-vous sur ces images qu'on a pu voir ?
Oh, c'est ce que j'ai exprimé tout de suite. Effectivement, les images peuvent paraître choquantes. Trouver des jeunes, des lycéens qui se retrouvent à genoux, les mains sur la tête, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre société, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre jeunesse. Pour autant, encore une fois, repassons ça dans ce contexte. Ne polarisons pas sur ces images-là. Nous ne sommes pas dans un état policier, dans un état où la répression est l'expression majeure. Donc, il faut surtout que l'on sorte de ces situations. Voilà, ce n'est pas normal d'avoir aujourd'hui les lycéens dans la rue pour des revendications qui sont tout à fait possibles d'entendre lorsqu'on est autour d'une table sur lesquelles on peut trouver des réponses. On ne peut pas effectivement cautionner certaines pratiques policières lorsqu'elles sont extrêmes, mais on ne peut pas non plus cautionner certaines pratiques de lycéens et d'adolescents lorsque l'on est dans la rue, en sortant du lycée, pour renverser des voitures, pour mettre le feu à l'environnement. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour la France et ce n'est pas aujourd'hui ce qu'une démocratie solide comme la nôtre peut permettre.
Jean-Philippe Monnet voulait intervenir.
Oui, c'est vrai que le 1er décembre, puisqu'on évoque les stratégies finalement de l'ordre public, a été reproché à certains ordres donnés au CRS d'avoir été dans une stratégie, on va dire, soft, à savoir de ne pas aller au contact brutal avec les manifestants, estimant que cette posture était la meilleure pour éviter à la fois des blessés, des dérapages qui peuvent aller dans les deux sens. Je pense que cette stratégie n'a pas eu les effets escomptés en termes d'ordre public et que du coup, il y a une graduation, peut-être malheureuse, mais enfin qui est de fait, pour cantonner sans doute plus durement avec les dispositifs mis en place par le gouvernement en termes de système de protection à la fois des forces de l'ordre, de leur mobilité, parce que c'est un enjeu de mobilité sur le terrain, qui fait que les lieux publics à protéger seront peut-être protégés par d'autres forces que les forces policières elles-mêmes. Et les forces policières sont amenées à changer leur stratégie pour la manifestation de demain, pour aller vers du contact, s'il le faut, pour tout de suite, avec leur mobilité accrue, empêcher la propagation. Il y a eu quand même 250 feux, si j'ai bonne mémoire, dans des lieux privés ou publics à Paris, pour que ça se reproduise plus et que finalement qu'il n'y ait pas cette propagation pendant des heures de manifestants extrémistes.
Sébastien Rocher, vous vouliez intervenir également.
Oui, je crois que ces violences policières, elles sont réelles. Il y a une série de vidéos qui ont été diffusées. La presse belge a fait la une avec les policiers français en groupe en train de matraquer des personnes au sol. Et elle pose la question de la légalité de l'action policière et des insuffisances du système français de contrôle. Alors ce qu'on voit sur les images, c'est qu'on ne peut pas identifier des policiers qui sont en uniforme avec des cagoules. Et c'est un problème. On doit pouvoir rechercher la responsabilité individuelle des manifestants et des casseurs, on doit pouvoir rechercher la responsabilité individuelle des policiers. Et dans le système actuel, il n'y a pas de numéro visible suffisamment large qui est apposé sur l'uniforme des policiers. Donc ce débat, il a déjà eu lieu en France. La France est très frileuse en matière de contrôle de la police par rapport aux autres grandes démocraties. Même des pays comme la Colombie, sont des pays qui font porter aux policiers des numéros d'identification visible en opération de maintien de l'ordre. C'est le cas également d'un certain nombre des Länder allemands, par exemple. Donc ça, il y a des choses à apprendre, il y a des conclusions aussi à tirer pour éviter que la violence des policiers attise le mouvement. Parce que bien sûr, on veut se venger. Lorsque le week-end dernier, vous avez été victime de violences policières, le week-end d'après, vous avez envie d'en découdre. Donc, le contrôle de la police dans la démocratie est un élément clé de son bon fonctionnement. Et je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir à partir de maintenant. Je pense que les députés devraient se saisir de ces occasions pour faire progresser le système français.
Édition spéciale sur RFI.
Quand vous voyez que les représentants des Gilets jaunes qui demandent à me rencontrer et à qui je dis « venez me rencontrer » sont menacés de mort, monsieur Boulot, parce qu'ils vont voir le Premier ministre de la République française. Quand vous voyez que des élus de la République, élus au suffrage universel, dans le cadre démocratique, sont menacés, parfois menacés de mort, leur famille menacée. Quand vous voyez, monsieur Boulot, qu'au Puy-en-Velay, des fonctionnaires qui se trouvaient à l'intérieur de la préfecture ont vu en face d'eux des gens déchaînés, qui voulaient brûler la préfecture, et eux avec, qui leur disaient, en les montrant du doigt, « Vous allez rôtir comme des porcs !» Ce n'est vraiment pas la France que nous voulons.
Édouard Philippe, toujours hier soir sur TF1. Benjamin Cauchy, je vous rappelle que vous êtes cofondateur des Gilets jaunes libres. Édouard Philippe évoque les menaces proférées à l'encontre des Gilets jaunes qui voulaient le rencontrer. Est-ce qu'il est possible, Benjamin Cauchy, de lancer un dialogue quand une partie non négligeable des Gilets jaunes semble ne pas le souhaiter, en tout cas qu'il y a des difficultés à trouver des représentants, de désigner des porte-paroles qui fassent consensus?
Écoutez, c'est pas celui qui crie le plus fort qui est forcément majoritaire. Donc il y a eu effectivement des menaces, j'en ai été moi-même victime. Maintenant, on parlait tout à l'heure de cette grande armée de citoyens silencieux qui veut en découdre, mais par le dialogue social. C'est bien cela que l'on tente de représenter. Et je vous avouerai qu'il ne me reste que 5 minutes à vous consacrer parce que je monte sur Paris et que malgré les menaces, nous allons les braver. Et nous lançons encore une fois ce matin, par le biais de vos ondes, un appel au président de la République pour nous réunir cet après-midi, s'il le peut, s'il souhaite faire enfin preuve d'humanité, de manière à ce que le dialogue social soit fait entre le peuple et son représentant suprême.
Puisque on vous a plus que quelques minutes, je vais quand même vous poser la question. Édouard Philippe a annoncé hier soir, il a en tout cas confirmé hier soir l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. C'était le déclencheur du mouvement, votre principale revendication. Qu'attendez-vous de plus aujourd'hui?
Alors déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, l'annonce de l'annulation des taxes vaut que pour 2019. En attendant, les Français ont quand même subi celle de 2018. Hein, je vous rappelle, ne nous laissons pas endormir. Et quid de 2020? Et plus largement, le problème, c'est un problème de pouvoir d'achat. C'est une revendication qui est bien plus large que celle de la hausse des taxes sur le carburant. Nous souhaitons une revalorisation des salaires, des retraites, des pensions d'invalidité et handicapés. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de ressources, en tapant sur les 80 milliards d'évasion fiscale, en tapant sur toutes ces multinationales qui, par des montages financiers, sont exemptes de fiscalité, je pense au GAFA. Si nous réallouons le CICE, autant pour moi, eh bien nous dégagerons des marges de manœuvre pour agir sur le pouvoir d'achat des Français. Voilà ce que nous attendons. Nous n'attendons pas de mettre le pays à feu à sang. Nous ne souhaitons pas, la grande majorité ne souhaite pas l'insurrection ni la révolution dans le pays. Nous souhaitons de véritables avancées sociales. Et ça, pour le coup, le gouvernement et le président Macron ne nous a pas encore entendus. C'est l'objet de notre rencontre, s'il le souhaite, cet après-midi.
Alors on reviendra bien sûr sur toutes ces revendications sociales qui sont les vôtres et celles de beaucoup de Gilets jaunes. Benjamin Cauchy, avant ça, Bertrand Sort, je voulais revenir avec vous sur ce que disait Édouard Philippe. Il évoquait les menaces qui pèsent à l'encontre d'élus. Alors sans avoir été menacé, en tout cas à ma connaissance, vous êtes vous-même régulièrement interpellé sur les réseaux sociaux en tant que député de la majorité. On parle de confiance rompue avec les institutions et leurs représentants. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez?
Alors les menaces, évidemment, elles existent, hein, et j'ai des collègues députés qui ont été sérieusement menacés, physiquement menacés, et dont les permanences ont été effectivement dégradées. Je subis moi aussi, bien évidemment, des menaces, notamment via les réseaux sociaux, hein, qui jouent un rôle important dans ce mouvement. Évidemment, on ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas cautionner ce qu'on a vu au Puy-en-Velay, et je rejoins pleinement ce que M. Cauchy vient nous dire. Aujourd'hui, c'est par la négociation, c'est par le dialogue que l'on doit sortir de cette problématique. Les différents points qu'a évoqué M. Cauchy tout à l'heure, ils sont sur la table déjà, ils sont sur la table à l'Assemblée nationale, évidemment, où des pistes sont recherchées dans le budget 2019.
Et ouais, je reprends des propos sur Facebook qui vous sont adressés, parce qu'ils ne sont pas tous à l'aune de ce que vient de nous dire Benjamin Cauchy. Qu'attendez-vous pour aller défendre les revendications des Gilets jaunes à l'Assemblée nationale sur Facebook? Les discours, c'est bien joli, mais vous, les politiciens, vous ne voyez même pas que les ouvriers sont en train de crever à petit feu. Des commentaires qui parlent aussi beaucoup des privilèges dont bénéficieraient les élus de la République. Que leur répondre et surtout comment leur répondre quand il y a une telle défiance?
Alors je leur réponds évidemment que on n'est pas les bras croisés à attendre que le temps passe. Évidemment, on travaille à l'Assemblée nationale. J'ai écrit moi-même au président de la République pour lui suggérer ce moratoire qui a finalement été pris en compte. À longueur de journée, nous travaillons effectivement à faire évoluer cette fiscalité et à faire évoluer pour que le pouvoir d'achat soit plus important. Aujourd'hui, effectivement, il faut renouveler ce dialogue. Il faut être en contact certainement encore plus. Il faut faire preuve de plus de pédagogie. Je passe mon temps en circonscription, effectivement, à me déplacer sur le territoire, à rencontrer les gens. La porte de ma permanence est ouverte en permanence. Voilà, nous sommes là, nous écoutons, nous relayons effectivement les demandes. Mais je suis, moi, assez optimiste sur ce qui va arriver, parce que le président de la République a effectivement souhaité ce débat qui va s'inscrire pendant 3 mois. Je peux vous dire que j'ai un nombre de demandes impressionnant de personnes qui souhaitent y assister. Nous sommes dans un pays de dialogue et je pense qu'on va sortir de cette phase de violence qui n'est souhaitée finalement que par un tout petit nombre d'extrémistes. Et nous allons réussir à mettre en place les réformes nécessaires et les décisions nécessaires pour que le pouvoir d'achat soit effectivement en hausse. C'est une nécessité dans notre pays. On doit pouvoir vivre décemment du fruit de son travail et ne pas être le vin du mois à savoir comment on va réussir à faire manger sa famille.
Bertrand Sor, est-ce que vous ressentez ce mouvement finalement comme un échec du macronisme qui voulait au départ renouveler la politique, qui se voulait un renouvellement de la représentation nationale? Vous, en tant que député La République En Marche, comment vous le ressentez?
Alors d'abord, je n'oublie pas qu'au résultat du premier tour des présidentielles, on avait 4 candidats autour de 20%. Donc on a une société qui politiquement est divisée avec des aspirations et des visions politiques totalement différentes. Et c'est aussi ce qui s'exprime aujourd'hui dans la rue. Et je pense qu'effectivement le défi lancé par Emmanuel Macron de sortir des clivages politiques, il répondait à une attente de notre société. Ça fait 1 an et demi qu'on est là. Donc en 1 an et demi, effectivement, on ne révolutionne pas le monde. On ne change pas les pratiques. Moi, ce que j'entends, c'est un besoin de démocratie supplémentaire. C'est une nécessité d'instaurer un dialogue plus en direct avec nos concitoyens.
Est-ce que vous qui êtes en contact avec vos concitoyens, d'ailleurs, qui sont-ils ceux qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont les mêmes qui manifestent, qui portent des gilets jaunes? Et surtout, est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous êtes en contact avec Matignon, avec l'Élysée? Vous êtes député de la majorité. Est-ce que vous arrivez à faire remonter ces contacts directs avec la population? Et comment est-ce que c'est accueilli?
Alors évidemment, on est en contact direct. Alors je ne vais pas vous dire que j'appelle le président de la République et qu'il me répond immédiatement, je vous mentirai. Et de la même façon avec le Premier ministre, voilà, ne nous leurrons pas. Et il ne faut pas manquer de le répéter, puisque certains concitoyens pensent que c'est possible. Pour autant, nous faisons remonter effectivement toutes les doléances, tout ce que j'ai pu réceptionner comme doléances de la part des Gilets jaunes, ont été remontées immédiatement, à la fois à Matignon, à la fois à l'Élysée. Aujourd'hui, il faut rétablir aussi la vision de qui est le politique. Le politique, il est uniquement un représentant de ses concitoyens. Je l'ai vécu quand j'étais maire, où j'ai senti la défiance vis-à-vis du politique monter. J'ai senti cette colère monter. C'est-à-dire que nous arrivons au bout, je pense, d'un système de fonctionnement, mais le débat est beaucoup plus large que les gilets jaunes. Pourquoi sommes-nous dans cette situation-là? On pourrait parler de mondialisation, on pourrait parler d'hyperconsommation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un fonctionnement mondial du commerce, qui est basé essentiellement sur la consommation, qui nous amène à vivre cet épisode aussi en France. Un besoin de démocratie, un besoin de réduire la fracture territoriale également, qui est un sujet majeur que j'entends moi dans ma circonscription. Un sentiment d'abandon de la part de l'État. Un sentiment de « je paye de l'impôt, mais le service public n'est plus là ». Donc le chantier, il est vaste. La demande de nos concitoyens, elle est très vaste. Et je pense que c'est avec nos concitoyens que nous devons construire la société de demain, la société française.
Le chantier est vaste. 7 heures bientôt passées de 43 minutes ici à Paris.
Édition spéciale sur RFI.
Anna Piekarek nous a rejoint en studio. Anna, on va aborder un autre point avec vous, celui des réseaux sociaux. C'est là que le mouvement est né, c'est là qu'il continue d'exister au quotidien, sur Facebook en particulier. Alors Facebook, c'est un formidable moyen d'organisation, d'échange, une plateforme de discussion sans équivalent. Mais Anna Piekarek, c'est aussi un forum où se partagent toutes sortes d'articles, de rumeurs, de contenus, de vidéos, de pétitions, rarement vérifiées et parfois complètement fausses, pour ne pas dire trompeuses, Anna.
Oui, depuis 3 semaines, les rumeurs les plus folles circulent sur les pages Facebook de certains gilets jaunes. Si le mouvement est né d'un ras-le-bol fiscal et d'une révolte contre la précarité, un arrière-fond identitaire y est aussi présent. Ainsi, dans une vidéo visionnée plus de 150 000 fois, 2 leaders autoproclamés du mouvement relaient une fausse information propagée depuis 1 an par l'extrême droite française, selon laquelle le pacte de Marrakech, qu'Emmanuel Macron doit signer le 10 décembre, forcerait la France à, je cite, « accueillir des millions d'immigrés ». En réalité, ce document de l'Organisation des Nations Unies, qui liste une vingtaine de propositions pour aider les pays signataires à faire face aux migrations, n'est pas du tout contraignant pour les États et sa valeur est surtout symbolique. De nombreux internautes ne croient cependant pas les sources officielles et les journalistes et reprennent les messages de l'extrême droite qui crie à la trahison et appelle à bloquer l'Élysée pour empêcher le président de se rendre à Marrakech et, comme ils disent, vendre la France à l'ONU.
Alors, depuis les violences de la semaine dernière à Paris, de multiples commentaires sur les réseaux sociaux font également état de policiers qui auraient participé aux dégradations.
Selon cet intox, des policiers en civil se seraient mêlés aux gilets jaunes pour se livrer à la casse et de cette façon discréditer les manifestants. Il est vrai que de nombreuses vidéos tournées samedi dernier dans les rues de Paris ont montré des policiers déguisés en casseurs avec cagoules et sacs à dos, ainsi que des casques. Mais s'ils étaient là, comme l'a expliqué la police nationale, c'était pour identifier et interpeller plus rapidement les casseurs. Cette présence de policiers en civil dans les manifestations est d'ailleurs une pratique courante, surtout depuis l'apparition des Black Blocs dans les cortèges.
Alors, ces rumeurs sur le pacte de Marrakech, sur les policiers casseurs, ce ne sont que deux exemples parmi d'autres de fausses informations qui continuent de pulluler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.
Oui, les exemples sont nombreux. Une rumeur très relayée sur Facebook affirme notamment que la France a perdu sa constitution depuis 2017 à la suite d'un soi-disant décret, ce qui rendrait la présidence actuelle illégitime. On peut aussi citer cette photo d'une vieille dame blessée à la tête. Selon certains internautes, elle aurait été frappée par un gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes. En réalité, ce cliché date de 2016. Une autre photo, publiée sur les réseaux sociaux après la manifestation du 24 novembre, montre un homme en uniforme de gendarme avec une pancarte « Ne lâchez rien ». Rien ne permet pourtant de dire que l'individu soutient les Gilets jaunes. Et pour cause, ça fait déjà 2 ans que la photo circule sur Internet.
Merci Anna Piekarek, 7h46. La principale information de la semaine, c'est donc ce recul du gouvernement sur la taxe sur le carburant.
Il n'y a aucune cacophonie. Cette taxe n'est pas dans le budget 2019. Elle est annulée. Point.
Elle est annulée. Point. Aucune cacophonie, assure le Premier ministre. Pourtant, Anthony Lattier, ça n'a pas été aussi clair tout de suite.
Hein. Oui, ce n'est pas si clair que ça. En effet, pendant quelques heures, en fait, il a fallu plus de 24 heures pour bel et bien supprimer la hausse de la taxe. Elle a, dans un premier temps, été suspendue, vous l'avez suivi, mardi, avant d'être supprimée le lendemain. Mais l'annonce du Premier ministre n'a pas été jugée suffisamment claire par l'Élysée. Et la présidence a fait savoir mercredi soir que oui, la taxe était bel et bien supprimée. Alors que s'est-il passé entre mardi et mercredi ? Alors d'abord, premièrement, l'idée du moratoire de mardi n'a pas eu l'effet escompté. Finalement, beaucoup de gilets jaunes ont dit ça n'est pas suffisant. Il y a entourloupe. La taxe va revenir en juin prochain. Et puis, deuxièmement, l'exécutif s'est rendu compte que le Sénat avait déjà supprimé la hausse de la taxe carbone. Il aurait donc fallu, dans quelques jours, que les députés la réintroduisent dans le projet de loi de finances, dans le budget, pour qu'elle puisse ensuite être suspendue. Autant dire que c'est une manœuvre politiquement indéfendable. Deux conséquences de cette séquence. Le message a été brouillé et puis le Premier ministre est sorti affaibli de cette séquence.
Jean-Philippe Moinet sur cet épisode.
Oui, sur l'épisode politique et peut-être aussi sur ce qui me frappe dans cette conjoncture qui, espérons-le, ne va pas être une structure en termes de mentalité publique, c'est la force de l'irrationnel qui a été évoquée par votre consoeur concernant les réseaux sociaux et qui n'est pas loin du sujet évoqué actuellement par votre autre confrère sur la position du
Anthony
gouvernement.
Qui est avec
c'est-à-dire
nous.
Qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui se produit dans une partie du débat public et qui n'est plus un dialogue. Et cette part d'irrationnel va loin parce que ça participe à quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'on a dit que c'était peut-être révolutionnaire. Je pense que c'est pas révolutionnaire ce qui se passe parce qu'une révolution a quand même une idée dominante. Ici, on voit bien que les gilets jaunes ont des idées hétéroclites, voire contradictoires, avec des courants entre guillemets de pensée qui peuvent s'opposer. Et c'est surtout quelque chose d'assez pour certains, et je trouve qu'il faut souligner la position de M. Cauchy tout à l'heure, dans deux domaines qui m'ont intéressé dans ce qu'il a dit. C'est qu'il est d'ailleurs très courageux d'aller braver les menaces qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort en allant vers le dialogue. C'est quand même l'élémentaire dans une démocratie, c'est de dialoguer, quoi qu'on pense et quoi qu'il en soit des oppositions. Et quand il évoquait d'ailleurs le mouvement du gouvernement et de l'exécutif concernant l'économie. C'est vrai que là, on est sur un sujet qu'il a pointé dans l'observation des évolutions du pouvoir exécutif, qui est très intéressante, c'est que on sait bien quand même, l'économique et le social se rejoignent. Et il y a une partie irrationnelle, là, pour le coup, des plus radicaux des Gilets jaunes, qui on peut considérer qu'ils peuvent se tirer une balle dans le pied sur le plan social. C'est que à un moment donné, si l'économie plonge, qui va payer les pots cassés ne sont pas les plus favorisés, ce sont les plus modestes, ceux qui vont dans les supermarchés, ceux qui ont besoin d'un pouvoir d'achat, mais aussi de pas être au chômage durablement. Donc cette question de l'économique et du social est évidemment liée
à tout cela. Bertrand Sorge, je vais vous faire réagir, député la République en marche de la Manche, sur cette séquence du gouvernement un peu malheureuse. On a eu l'impression d'une vaste hésitation qui n'a pas bénéficié tout à fait à l'exécutif.
Évidemment, on ne peut que partager. Moi, j'aurais souhaité effectivement une position beaucoup plus ferme dès le départ de l'annulation de ces hausses de taxes. Prenons acte, c'est fait. Ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que ces taxes ne s'appliqueront pas en 2019. Je crois que c'est un premier message fort qui répond aux premières revendications des Gilets jaunes. J'entends très bien la main tendue de M. Cauchy. Je crois que la grande majorité des Gilets jaunes s'inscrit dans cette volonté du dialogue, dans cette volonté de construire ensemble les mesures nécessaires à ce que les Français finalement retrouvent de la sérénité et les conditions pour vivre décemment, encore une fois, du fruit de leur travail. Donc je pense que l'on va sortir de cette difficulté. Le gouvernement a besoin d'entendre, peut-être de réagir plus vite, peut-être d'aller plus loin. Et en tout cas, je peux vous dire que sur les bancs de l'Assemblée nationale, nous souhaitons sortir vite de ce conflit et nous sommes prêts effectivement à étudier les différentes pistes qu'a pu citer M. Cauchy pour faire en sorte de répondre à une demande qui en grande majorité est légitime.
On va écouter un slogan qui met en tout cas, malgré les dissensions au sein des Gilets jaunes qu'on vient d'évoquer, un slogan les met tous d'accord.
Il est antipathique. Si Jupiter, c'est un roi, on a l'impression qu'il a un peu mis en place, moi j'appelle ça une secte, mais les bouffons du roi, je vais parler comme ça.
Il a été élu, mais bon, c'est pas un roi non plus. Hein. Moins d'arrogance, ce serait pas mal, oui. Surtout vis-à-vis des retraités et des petites personnes, oui.
Macron parle bien, il fait de très beaux discours, mais il entend très très mal. Et je pense qu'à force, il va finir par comprendre. Le problème, c'est entre les deux oreilles, hein, c'est tout.
Moi, ce que j'attends du président, c'est qu'il entende son peuple, parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que s'il en est là où il en est, c'est grâce à son peuple. Et de ne pas l'entendre, c'est comme un peu lui cracher au visage, à quelque part.
Méprisant, provocateur, président des riches, mais pas président de la France, ça c'est sûr. On n'est pas des chiens, on est des êtres humains, on mérite d'être respectés avant tout, et on n'a pas à nous parler comme ça. On n'a pas à nous rabaisser. C'est pas parce qu'on travaille, on touche le SMIC ou qu'on n'a pas fait spécialement des études qu'on est des incompétents.
Depuis le temps, il aurait dû prendre la parole, tout simplement, et s'expliquer. Là, on a l'impression qu'il n'y a que lui, monsieur, c'est tout. On n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup, à part peut-être notre portefeuille.
Parole de Gilet jaune. Il y a un problème avec la personne d'Emmanuel Macron, Anthony Lattier, et surtout, on l'entend, il est tout seul, c'est lui qui est mis en avant, on n'entend jamais le nom d'Edouard Philippe, on n'est pas comme en 95 avec Alain Juppé par exemple.
Oui, pourtant c'est Edouard Philippe qui toute la semaine était au front, et justement Emmanuel Macron étant en difficulté, il a pris un peu de recul, il a pris de la distance, faisant jouer les institutions, hein. La 5e République lui permet de mettre son Premier ministre qui donc gouverne selon la Constitution au premier plan, et lui donc de mettre un Premier ministre bouclier en fait, et lui de prendre un peu de recul. Il avait déjà fait ça au moment de l'affaire Benalla. En effet, il y a une détestation assez forte du président de la République, de sa personne, et s'il veut rebondir, il va vraiment devoir changer cela. Visiblement, c'est l'accumulation des petites phrases, des polémiques de ces derniers mois qui ont abouti à cette situation aujourd'hui.
Bertrand Sorge, il doit prendre la parole, s'exprimer en début de semaine prochaine. Que peut-il dire? Que doit-il dire pour apaiser la colère?
Je crois que le discours qu'il va tenir va aussi être très lié à comment va se passer ce samedi, que certains redoutent noir. Je crois qu'effectivement, il va falloir à la fois répondre à ce volet sécuritaire, selon ce qui va se passer,
il va falloir aussi répondre à une demande très basique de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le président de la République a besoin de regagner en image, a besoin de regagner en crédibilité. J'entendais récemment une personne qui s'exprimait de façon très peu agressive et qui disait aujourd'hui, on ne comprend plus vers quoi le président de la République veut mener notre pays. Donc je crois qu'effectivement, il y a besoin de repréciser quels sont ses objectifs de façon très pédagogique, avec des mots très simples, accessibles à tout le monde, pour redonner confiance, effectivement.
Est-ce qu'un départ d'Edouard Philippe, du Premier ministre, pourrait marquer une rupture qui serait à même de calmer la colère ?
Je crois qu'au-delà de l'homme, je ne sais pas si le Premier ministre doit remettre sa démission, au-delà de l'homme, ce qu'attendent les Français qui sont aujourd'hui sur les ronds-points, les gilets jaunes, et ce qu'ils attendent, c'est des mesures très concrètes. C'est une politique très concrète, sonnante et trébuchante, qui redonne immédiatement un peu de pouvoir d'achat. Et c'est ce en quoi doit être capable de répondre le chef de l'État et le Premier ministre, que ce soit Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre. On est passé au-delà des hommes. La réponse aujourd'hui, elle est beaucoup plus large à apporter à notre société française.
Jean-Philippe Moinet, avant d'aborder un chapitre international.
Oui, c'est vrai que c'est important le partage des tâches qui a été évoqué entre le président de la République et son Premier ministre. Sous la Ve République, et notamment en période de crise, ça s'est vu, effectivement, il y a le rôle du bouclier. Certains rajoutent le fusible, et la question ne se pose pas dans le court terme par rapport au départ, évidemment, du Premier ministre, mais la question de la prise de distance en cas de crise et de tension d'un président de la République, de la Ve République, quel que soit le président, et ce qui n'évacue pas la question évoquée du rôle personnel d'Emmanuel Macron, à la fois dans la cause de la crise, mais peut-être aussi dans la solution et la sortie de crise, reste posée. Et donc cette distance qui est assez manifeste depuis près d'une semaine, quand on se souvient historiquement des révolutions de rue de mai 68, on se souvient que le président de la République avait disparu sans même prévenir son Premier ministre, qui était Georges Pompidou. Le général de Gaulle est parti à Baden-Baden. Pendant 2-3 jours, il y avait plus qu'un affolement général à la tête de l'exécutif.
Il faut envoyer Emmanuel Macron à Baden-Baden.
Alors, les temps sont beaucoup plus modernes. Donc, on voit bien que mais n'oublions pas que la France a traversé des crises, d'une part, et qu'elle a su s'en sortir, et que la démocratie française est beaucoup plus solide qu'elle peut paraître. Première chose. Et la deuxième chose sur le rôle de la parole, c'est qu'il y a deux grands chantiers qui vont s'ouvrir. Le rétablissement de l'ordre républicain, c'est une urgence, mais aussi la préservation et même le renforcement de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, c'est vrai que c'est un chantier très large, et j'allais dire aussi la rénovation de notre démocratie avec les réformes institutionnelles qui sont au programme. Je pense qu'elles devront s'élargir.
Édition spéciale sur RFI.
On va prendre un peu de recul, voir comment ce mouvement des Gilets jaunes est perçu à l'étranger. On en parle beaucoup, notamment aux États-Unis. Éric de Salles, vous êtes notre correspondant sur la côte ouest. Que dit-on exactement de votre côté de l'Atlantique ?
Écoutez, cette semaine, les Gilets jaunes ont fait irruption sur les écrans américains. C'est quasiment la seule actualité internationale couverte ici par les télévisions. Mais aux États-Unis, ce sont de loin les médias conservateurs qui accordent le plus de place aux Yellow Vests, comme on les appelle ici. Tous se réjouissent ouvertement de cette crise, car ils veulent y voir la validation de leur théorie. Breitbart News y consacre plus de 20 articles. Les Gilets jaunes sont le Waterloo écologique de Macron, pour le site d'extrême droite qui se délecte de ses protestations contre leur bête noire mondialiste, selon leur thème. La France est mise à genoux par les pires émeutes depuis un demi-siècle, écrit le site d'extrême droite dirigé par l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. De son côté, la très trumpiste chaîne Fox News conseille à Emmanuel Macron de suivre l'exemple de Donald Trump, dont il critiquait il y a peu le nationalisme. Les travailleurs français veulent que Macron les représente comme Trump représente les travailleurs américains, explique un analyste de Fox.
Merci beaucoup, Eric de Salle. Cette édition spéciale, malheureusement, se termine déjà. Merci à tous d'avoir été avec nous sur le plateau ou par téléphone. Jean-Philippe Moinet, politologue, directeur de la revue civique. Benjamin Cauchy, cofondateur des Gilets jaunes libres. Bertrand Sort, député La République En Marche de la Manche, ancien maire et membre du conseil municipal de Saint-Père-sur-Mer. Sébastien Rocher, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Je rappelle le titre de votre ouvrage, De la police en démocratie, paru aux éditions Grasset. Et puis Anthony Latier du service politique de RFI. Merci également à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. Rédaction en chef assurée par Jean-Baptiste Letondeur et Patrick Adam. Merci à tous de votre fidélité. Restez avec nous dans deux minutes, un nouveau journal.